Ça a démarré. Bonjour tout le monde. Vous allez bien?
Oui.
Eh bien, moi aussi. C'est une vieille blague entre nous, ce moi aussi. Ça fait des années que ça dure. Ouh, il fait beau là, ça nous change, hein? On se dirait ailleurs, on se dirait pas chez nous. C'est donc qu'il fait beau. Jean chapitre 8, verset 32, s'il vous plaît. On va lire au verset 30 déjà. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Amen. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire affranchir, ça veut dire rendre libre. Rendre libre. La vérité vous rendra libre. La liberté. Mais c'est quoi la liberté? Pilate a posé la question, c'est quoi la vérité? Mais la liberté, c'est quoi la liberté? Hein? Mon Dieu, que le Seigneur nous aide à bien comprendre. Ce matin, ça va être un enseignement. Vous allez apprendre des choses qui vont vous aider et qui vont vous donner plus de discernement. Les gens du monde en général, parce qu'il y a quand même des gens aussi qui pensent dans le monde, et plus que dans le milieu chrétien d'ailleurs, eh bien, dans le monde en général, et aussi chez les chrétiens, ils n'ont pas une notion exacte de ce que c'est que la liberté. La majorité pense que la liberté, c'est l'absence de contraintes, hein, c'est l'absence d'entraves. Quelqu'un qui est libre, c'est quelqu'un qui n'est pas soumis à une servitude ou qui n'est pas emprisonné, qui n'est pas captif. Voilà, ils pensent ça comme ça. En fait, c'est ce que déclarent les fameux droits de l'homme. Les droits de l'homme. On peut penser, on peut agir, en gros, hein. On peut penser, on peut agir, on peut s'exprimer. Alors, on en entend beaucoup parler, hein, de la liberté d'expression, selon notre propre choix, pourvu que ça ne dérange pas l'ordre public. Vous connaissez tout ça. Hein, vous pouvez faire et dire ce que vous voulez, pourvu que ça ne foute pas le boxon. Hein, alors, il y en a, ils ne se gênent pas, hein, mais bon, voilà. Ce que les gens ne réalisent pas, c'est qu'il ne peut pas y avoir de liberté sans servitude. Alors déjà, ben, il faut qu'ils apprennent ça, hein. Il faut mûrir un peu. Qui dit servitude, dit esclavage. Parce qu'en réalité, d'abord je vais vous parler du niveau 2, hein, parce que si je vous parle du niveau 1 tout de suite, ça va être une bombe. Au niveau 2, nous sommes tous esclaves des lois qui règnent dans notre société. Alors, on a notre société, je veux dire, il y a l'Église, mais il y a aussi notre pays, et puis il y a aussi les autres pays, la société humaine. Et la liberté, en réalité, ça n'est qu'une illusion. Certains disent, nous sommes libres de choisir, nous sommes libres de penser, nous sommes libres de nous exprimer. Mais la réalité numéro un, faire un choix, ça implique des procédures, ça implique des règles qui sont régies déjà par la nature humaine. Et ces règles, elles sont activées par les circonstances. Elles sont activées par les événements. Et puis la Bible dit que nous sommes esclaves de tout ce qui triomphe de nous. Nos choix, nos pensées sont captives de la chair avec ses faiblesses, avec ses limitations. Alors, il veut parler d'une liberté, hein. Et alors, tout cela met en échec le concept du libre choix. Et puis alors, que dire des lois qui régissent l'univers, la nature, la morale? On ne peut pas y échapper. On ne peut pas. Même les plus rebelles, les anards les plus accomplis de notre société ne peuvent pas y échapper. Ils ne sont donc pas vraiment libres. Si quelqu'un brise les lois, par exemple, d'un gouvernement, il va se retrouver sous un système différent de loi. Je vais vous donner un exemple extrême. Charlie Hebdo.
Charlie Hebdo.
Et si quelqu'un est insensé au point de penser qu'il a échappé à toute loi, il devient une loi pour lui-même et il est soumis à ses propres faux raisonnements ainsi qu'à sa nature pécheresse. Vous ne pouvez pas vous échapper de vous-même. Oui, il y a un moyen, c'est la mort. Mais si l'existence continue après la mort, et nous croyons qu'elle continue après la mort, et il y a beaucoup de témoignages, avant les gens disaient « Oh, il n'y a personne qui est revenu pour nous dire ». Maintenant, si, si, il y en a qui reviennent pour nous dire. Alors, ils veulent être encore incrédules en disant « Mais non, c'est simplement un truc électrique dans le cerveau ». Enfin, ils disent tout ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qui arrive après la mort? La Bible nous dit qu'il y a le jugement. Et alors, où est la liberté? Où est la liberté? Que dit la Bible au sujet de la liberté? Eh bien, il y a une fausse liberté et il y a une vraie liberté. Comme il y a un faux évangile et il y a un vrai évangile. Tout est double tout le temps. La Bible nous dit clairement que nous sommes esclaves, soit du monde, soit de Christ. Il n'y a pas de zone en dehors de ces deux-là. Il n'y a pas de zone. Personne ne peut dire « Je ne suis esclave ni du monde, ni de Christ, hein, ni Dieu, ni maître. » La Bible dit aussi très clairement que la vraie liberté est aussi une servitude. Alors la question est de savoir de qui sommes-nous esclaves? C'est ça la question. C'est ça la grande question. On va lire Jean 8, 34-36. Jean 8, 34-36. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livrait au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure toujours. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et puis, 8, 32, où il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et puis, Jean 3, 36, qui dit, celui qui croit à la vie, qui croit au Fils, à la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Liberté. La liberté, selon Jésus-Christ, consiste à être soumis à la souveraineté de Dieu. À la souveraineté de Dieu, ce Dieu qui nous a libérés du péché par Jésus-Christ, c'est ce qu'on vient de lire, soumis à la souveraineté de ce Dieu qui nous a libérés du jugement par Jésus-Christ, c'est ce que nous venons de lire. La liberté, selon Jésus-Christ, ça consiste à être soumis au Dieu qui nous a libérés du châtiment éternel par Jésus-Christ, mais soumis à ce Dieu. Et les élus de Dieu seront sauvés. Et les élus de Dieu obéissent à la loi de la foi. Dans ces derniers temps, le Seigneur appelle les siens à venir à lui pour être libérés, pour devenir participants de sa gloire. Libérés de quoi? Eh bien, le plus grand travail dans le milieu chrétien, c'est d'être libéré de la religion. Libéré des fausses croyances, des prétentions. Afin de pouvoir participer à sa gloire. Celui qui s'humilie, celui-là sera élevé. Celui qui se soumettra au pied de la croix sera libéré. Alors, ne dites pas en vous-même que vous avez le choix de croire ou non. Parce que votre capacité de choisir est esclave du péché et vous le savez bien. Tous, hein, ceux qui, là, vous qui êtes là, mais aussi ceux qui écoutent sur le net. Vous êtes fait de chair et votre chair est faible. Et toutes vos prétentions soi-disant spirituelles, ça cache quoi? Dieu a désigné ses élus avant même la fondation du monde et son appel est irrésistible à ceux qu'il a choisis. Ils entendent son appel sur la terre ou ils l'entendent dans le séjour des morts selon 1 Pierre 4, 6. Mais tous ceux qui appartiennent à Dieu seront sauvés. Vous savez, l'appel de Dieu produit une odeur de vie pour certains et une odeur de mort pour d'autres. Alors, contrairement à ce que certains pensent, la doctrine rétablie de la prédestination n'est pas une doctrine terrifiante pour les élus. Pas du tout. Parce que les élus ont reçu gratuitement la grâce du salut. Alors, on n'a pas à avoir peur. L'autre jour, je parlais avec une dame qui me dit « Oh là là, la doctrine de la prédestination me fait peur. » Eh bien, excusez-moi, j'espère que cette dame ne va pas m'écouter là aujourd'hui, mais c'est la peur, c'est que soit elle est ignorante, soit elle est réprouvée. Qu'est-ce que ça veut dire réprouver? C'est un mot qu'on n'emploie pas tellement. C'est comme l'autre jour, on visitait le musée du désert et on parle de la révocation de l'édit de Nantes. Là, beaucoup de gens ne savent pas ce que ça veut dire révocation. Eh bien, le mot réprouver, c'est la même chose, ou même le mot rédemption, on peut frapper, même des pasteurs ne savent pas ce que ça veut dire. Je le sais, je participe à des pastorales et, je vois et j'entends. Le dictionnaire dit qu'un réprouvé, c'est un pécheur exclu du salut éternel par le jugement de Dieu. Question. Qui peut être exclu du salut éternel? Uniquement les fils de Caïn. Uniquement les fils de Caïn. Est-ce que vous vous souvenez de ce que le prophète William Branham disait à ce sujet? Je vais vous rafraîchir la mémoire. Il dit qu'au temps de Jésus, ceux qui blasphémaient contre Dieu, le Père, ça pouvait leur être pardonné. Vous vous rappelez? Jésus lui-même le dit. Il dit que ceux du temps de Jésus qui blasphémaient contre le Fils, cela pouvait leur être pardonné. Mais il dit, et Jésus le dit aussi, que ceux qui blasphèment contre le Saint-Esprit, cela ne peut pas leur être pardonné, ni dans ce monde, ni dans l'autre. Le prophète Branham croyait, comme nous, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la même personne. Alors comment se fait-il que si on blasphème contre l'un ou l'autre, c'est pardonné, mais pas le... Eh bien, il l'explique. Il disait que blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est dire que les miracles ou toute manifestation surnaturelle du Saint-Esprit faite au travers d'un homme sont l'œuvre du démon. Qu'est-ce qu'il dit? Sa doctrine est celle-ci. Un faux, c'est-à-dire un fils de Caïn, peut être loin de la vraie onction. Il dit qu'une telle personne est ce que Jésus appelle un faux Christ. Vous savez qu'à la fin, la Bible nous dit qu'il y aura des faux Christ, ça veut dire des faux loin. C'est-à-dire des gens qui ont une véritable onction divine, mais qui eux-mêmes sont faux. L'onction est bonne. C'est vraiment le Saint-Esprit qui agit au travers d'eux, mais eux-mêmes, eh bien, ils sont faux, ils sont de la race de Caïn. Ces personnes-là arriveront devant Dieu et diront, mais Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Et Jésus leur dira, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Fréquente pas cette sorte de personnes. Les prophéties venaient bien du Saint-Esprit, les miracles venaient bien du Saint-Esprit, mais la personne elle-même était fausse. Or, si vous dites à une personne, ou vous jugez qu'une personne est fils de Caïn, fils du diable, et que vous lui dites « tu es un faux », tu juges et tu te rends coupable parce que tu n'as pas le droit de juger de cela. Tu n'as pas le droit. En jugeant ainsi une personne, tu te rends coupable de péché. Et tu seras jugé avec la mesure dont tu te seras servi pour juger cette personne. C'est grave. Et si tu dis « les miracles que tu fais sont l'œuvre du démon » ou « l'inspiration que tu as vient du démon » ou « que l'ange qui te parle, c'est un démon », là, tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que quoi qu'il en soit, le diable ne peut pas faire de miracle. Vous vous rappelez que Branham disait ça? Il n'y a que Dieu qui puisse faire des miracles. Maintenant, on va aller un peu plus profond, vous allez voir. Il y a d'autres cas. Il y en a un autre, par exemple. Les fils de Caïn peuvent être des faux oints, donc, on sait. Des oints, ils sont oints, mais ils sont faux. Et ils peuvent aussi faire des miracles mensongers. Ah, il y a des miracles mensongers. Là, ce ne sont plus des miracles. Là, ce ne sont plus des miracles du Saint-Esprit, ce sont des trucs. Moi, je connais, c'est terrible à dire, mais je connais, je pourrais balancer des noms. Je pourrais balancer des noms. Des pasteurs, des évangélistes qui ont des complices dans les auditoires, qui font semblant d'être guéris pour émerveiller les gens. Ce sont des miracles mensongers. Je connais des prédicateurs qui font ça. Ils sont eux-mêmes faux. Et en plus, ils n'ont pas d'onction. Leurs miracles sont faux. Donc si vous leur dites que leurs miracles sont faux, vous blasphémez pas contre le Saint-Esprit, parce que vous avez la preuve. Vous n'allez pas vous avancer à dire une chose si vous n'avez pas la preuve. Leurs miracles peuvent aussi être dus à des chocs émotionnels. Vous savez que vous pouvez choquer des personnes ou émouvoir des personnes et obtenir certains résultats qui semblent miraculeux. Mais ça ne vient pas de Jésus, c'est simplement ce qu'on appelle du psychosomatique. Ou alors vous pouvez avoir certains miracles avec l'hypnose. Moi, je connais des personnes, il y en a une qu'on a même reçue ici, qui est une charmante dame, gentille, qui fait des miracles avec l'hypnose. Mais quand elle a vu que j'ai prié pour un aveugle qui a retrouvé la vue, elle a dit ça, ça me dépasse. Mais bien sûr, parce qu'avec l'hypnose, vous ne pouvez pas rendre la vue à un aveugle. Vous ne pouvez pas rallonger une jambe de 10 cm. Avec l'hypnose, ce n'est pas possible. Vous pouvez atténuer une douleur, vous pouvez des trucs comme ça. Si vous avez la preuve que leurs miracles sont faux, que ce sont des miracles mensongers, vous ne blasphémez pas contre le Saint-Esprit en les dénonçant. Mais il faut encore que vous ayez la preuve. Personne ne peut rendre la vue à un aveugle, personne ne peut ressusciter un mort avec l'hypnose ou avec un choc émotionnel. Le petit Kevin de Paris, Liliane est témoin, il est ressuscité. Et ce n'était pas par pression psychologique, ni par hypnose. Il était mort pendant 4 jours. Et il est revenu à la vie. Ça, c'est un miracle du Saint-Esprit. Dire que ça vient du diable, dire que c'est le diable qui l'a fait, c'est blasphémer contre le Saint-Esprit qui a fait la chose. Vous comprenez? Un réprouvé, c'est une personne qui a blasphémé contre le Saint-Esprit, et ça ne peut pas être un inconverti. Ça ne peut pas être un inconverti. Lisons Hébreux 6, 5. On va déjà lire 6, 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté au don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Ça ne peut pas être un inconverti. Un inconverti ne peut pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Ça ne peut être que des gens qui ont fréquenté l'Église, qui ont reçu quelque chose de Dieu et qui sont tombés dans un travers, qui sont tombés pas forcément dans un péché, mais dans un travers, dans quelque chose qui n'est pas juste, dans quelque chose qui est inique et qui se permettent de dire des choses. Ce sont des réprouvés. Les réprouvés sont ceux qui ont connu le Seigneur. La Bible nous parle d'un tel homme, c'est Judas. Il a connu Jésus, mais alors, lui, s'il y a quelqu'un qui a connu Jésus, aucun de nous a connu Jésus comme Judas. Hein. Nous, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière, nous le connaissons par le Saint-Esprit. Mais Judas, il a connu Jésus, il l'a vu manger, il l'a tout vu, il a tout entendu. Il a fait des miracles au nom de Jésus. Mais la Bible nous dit que c'était un démon. Et il l'a montré à la fin. Maintenant, vous avez d'autres cas encore. Où la personne qui dit que l'œuvre de Dieu est une œuvre faite par les démons. Et dans ce cas, dans le cas dont je vais vous parler là, il peut y avoir pardon. Tu me diras, ah bon, oui, il peut y avoir pardon. Si c'est une personne chrétienne qui dit que l'inspiration ou les miracles d'un serviteur de Dieu sont l'œuvre du démon, et que cette personne est un schizophrène, là, il peut y avoir pardon, parce que là, c'est une maladie. Il n'est pas responsable de tout ce qu'il dit. Ça peut lui être pardonné, parce qu'en fait, ce n'est pas forcément cette personne qui parlait. Peut-être que c'est qu'un schizophrène. Un schizophrène, il a son propre esprit, qui peut aimer Dieu. Et puis, il peut être visité de temps en temps par un mauvais esprit, par un esprit de mort, par un démon. Il peut être visité de temps en temps par un esprit, ou il peut être habité en permanence par un mauvais esprit, par un autre esprit, qui va se manifester plus ou moins violemment. Ce n'est pas forcément violent. La science moderne confirme que cela existe. Elle appelle ces gens des schizophrènes. Et renseignez-vous, une telle personne, c'est une personne malade qui a besoin de soins d'ordre psychiatrique. C'est même pas de la psychothérapie, c'est de la psychiatrie là. Elle n'est pas libre, quoique convertie. Par exemple, elle va faire des choses importantes, puis elle ne va pas s'en souvenir. Parce que quand elle les a faites, ce n'était pas elle qui les faisait. Combien de fois vous lisez dans les journaux des choses comme ça? Pourquoi elle ne s'en souvient pas? Parce que ce n'est pas elle qui l'a fait. Elle était saisie par un esprit qui lui a fait faire ceci, ou fait faire cela, ou dire ceci, ou dire cela. C'est l'esprit qui la parasite, qui agit ou qui parle. Et renseignez-vous, ça ne se guérit pas. Ça ne se guérit pas. En psychiatrie, ce qu'ils font, ils les soignent avec des drogues, c'est-à-dire qu'ils les étourdissent. Ils les abrutissent tellement avec des drogues qu'ils les calment tellement que, voilà, c'est des légumes qui se traînent, et puis voilà quoi. Mais ils ne les guérissent pas. En réalité, une telle personne a besoin d'un exorcisme. Un schizophrène n'est pas forcément un fou furieux. Un schizophrène peut être très calme. Vous avez toutes sortes d'esprits. Je vous ai toujours dit ça. Vous avez des esprits rigolards. Vous avez des esprits méchants, furieux. Vous avez des esprits roublards. Vous avez des esprits... Vous avez toutes sortes d'esprits. Alors nous, quand on entend parler d'un acte d'un schizophrène, en général, c'était un fou furieux. Alors ça fait... Ils mettent ça dans les journaux, mais... Mais il y a plein de schizophrènes que vous côtoyez, qui ont l'air très calmes, très gentils, très posés, tout, mais ça grouille là-dedans. Ça grouille. Parce que c'est une affaire de multiplicité d'esprits dans un même corps. Il y a beaucoup de choses très bizarres. Vous avez des hommes qui ont un corps d'homme et un esprit de femme. Et le contraire. Il y a plein de trucs bizarres. On ne peut pas se voiler la face, ça existe. Vous voyez? Je vous ai toujours dit ces choses, j'ai toujours enseigné comme ça. Une personne peut agir par sa propre chair, son moi, elle n'est pas libre parce que sa chair est faible, et on dit c'est une personne charnelle. Ça peut être un chrétien, mais il est charnel, voilà, il est charnel. Il veut dire que, bon, on ne comprend rien aux choses de l'esprit, voilà. Deuxièmement, le deuxième cas, c'est une personne qui peut agir sous une influence démoniaque. Là, c'est un schizophrène. Et puis troisièmement, vous avez des personnes qui peuvent agir sous l'influence du Saint-Esprit. Voilà, il n'y a pas quatre possibilités. Alors, la doctrine de la prédestination, elle est donc une doctrine de consolation pour les élus. Et cette consolation est le fondement, c'est-à-dire la foi solide et inébranlable dans la souveraineté absolue de Dieu, de sa seigneurie en toutes choses. Quoi qu'il arrive, celui qui est élu de Dieu, il sait qu'il est dans les mains de Dieu. Ça peut lui faire de la peine, ça peut l'attrister épouvantablement, mais il sait qu'il est dans la main de Dieu, que voilà, bon ben, tout est bien, comme disait la femme de foi. Et il sait cela d'une façon absolue, de sorte qu'il sait qu'aucune créature, aucune réalité de ce monde, même pas le diable ni les démons, ne peuvent le ravir de la main du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Comme dit Paul, je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni les êtres d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Romains 8, 38, 39. Frères et sœurs, nous sommes entre les mains du Dieu Tout-Puissant, celui dont la volonté ne saurait être mise en échec par quelque prière que ce soit. Si quelqu'un prie contre la volonté de Dieu, sa prière ne sera pas exaucée, c'est tout. C'est tout. Celui dont nous sommes dans les mains de celui dont le dessein s'accomplit inexorablement dans le temps. Et il ne fait pas les choses toujours tout de suite. Même pour la guérison, vous avez les miracles qui s'accomplissent tout de suite et la guérison qui prend un peu de temps, mais c'est toujours Dieu qui agit. Et il y a deux dons, celui de guérison et celui de miracle, je vous l'ai déjà enseigné. Mais c'est la même chose pour tout. Il y a du temps qui passe. Pourquoi ? Pour donner aux gens le temps de réfléchir aux conséquences et puis aussi de se repentir. Et puis aux autres, de prendre le temps de se reposer du choc qu'ils ont pris en pleine tronche pour pouvoir prendre des décisions calmement. Dieu joue avec le temps. Il a créé le temps pour beaucoup de raisons et entre autres pour cela. Nous sommes dans la main de Dieu qui tient toute chose. Nous sommes dans la main de celui dont il est dit qu'il connaît jusqu'au nombre de cheveux qu'il y a sur notre tête, de sorte qu'il n'y en a pas un seul qui tombe sans que ce soit sa volonté. Vous trouvez ça dans Matthieu 10, 29. Alors tu parles, s'il connaît le nombre de nos cheveux. Bon, nous, ça nous paraît dérisoire. Il connaît bien, bien plus encore les choses qui nous affectent et les choses qui sont les choses de notre vie. Il connaît, il sait. Alors je voudrais que vous cessiez de vous inquiéter. Je voudrais que vous cessiez de vous tourmenter au sujet de l'avenir, au sujet de ce que Dieu a prédestiné. Parce que la prédestination, elle est dans la Bible une réalité positive pour les élus. Elle est une réalité positive. Il s'agit simplement de reconnaître que nous devons notre salut à aucune autre réalité que le bon plaisir de Dieu. Rien d'autre. Nous ne devons notre salut qu'à sa volonté qui est juste et qui est bonne. Nous ne la devons pas à nous-mêmes. Nous ne la devons à aucun homme, à aucune femme, à aucun enfant. Nous ne la devons qu'à Dieu. Il faut reconnaître que nous devons notre salut à aucune autre réalité que le bon plaisir de Dieu. Quand on croit ça, quand on a le témoignage dans notre cœur par le Saint-Esprit que ces choses sont vraies, eh bien, on est bien, on est tranquille, on a l'assurance paisible, malgré la tempête, malgré le désert qu'on peut traverser. On sait que tout est permis par Dieu, il n'y a pas de problème. Si, il y a des problèmes, mais ce sont des ponctuations de la vie, ce n'est pas les choses réellement importantes. Pouf. Vous voyez ce que je veux dire, mes frères et sœurs ? Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Dieu tient toutes choses dans sa main. Il faut que nous soyons tranquilles. Il faut que vous soyez tranquilles. Il ne faut pas vous agiter. Il faut rester tranquille. Quelqu'un prie contre vous ? Quelqu'un prie pour que vos projets tombent dans l'échec ? Ils seront confondus. C'est tout. Parce que ce que Dieu a décidé, il le fera. Ce que Dieu a décidé, il le fera. Amen. Et puis, il ne nous dit pas toujours ce qu'il a décidé. Mais mes frères et sœurs, ce qui s'est déjà fait jusqu'à maintenant, c'était ce qu'il voulait, non? Donc, ce qu'il a commencé, il va l'achever. Amen. Est-ce que vous êtes malheureux? On n'est pas malheureux. On n'est pas malheureux. Tout va bien, disait la femme qui fermait la porte sur son enfant qui était mort, parce qu'elle allait trouver le vrai homme de Dieu. Eh bien, c'est ce que nous avons à faire ici-bas aussi. Être tranquille, tout va bien. Ne nous inquiétons pas, n'ayons pas peur, tout va bien, le Seigneur est bon. Et si nous avons commis quelques fautes, ben Dieu nous pardonne. Ce n'était pas méchamment, en tout cas pas de ma part, je n'ai pas fait quelque chose de méchant volontairement. Et si vous avez été victime de quelque chose que j'aurais pu faire et qui vous a blessé, je vous demande pardon, mais je ne veux pas dire que je n'ai pas fait exprès, mais ce n'était pas mon intention. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas là à se lever le matin en disant « qu'est-ce que je pourrais bien faire comme vacherie ?» Non, c'est pas notre nature. Alors soyez paisibles, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous nous levons et nous invoquons le nom de Jésus. Nous te remercions Seigneur. Nous te remercions Jésus. Je te prie mon Dieu que tu bénisses les personnes qui écoutent aussi cela sur Internet et quel que soit le problème qu'ils ont. S'ils ont besoin de se repentir, qu'ils se repentent. S'ils ont besoin de se mettre en ordre sur quelque chose, eh bien qu'ils le fassent. S'il faut qu'ils parlent à quelqu'un, eh bien qu'ils le fassent. S'il faut qu'ils écrivent à quelqu'un, eh bien qu'ils le fassent. Que chacun fasse ce qui est dans sa possibilité d'action. Merci Seigneur Jésus, parce que tu donnes à chacun le vouloir et le faire. Et je sais qu'il ne peut arriver que ce que tu permets. Que je fasse, mais aussi, il ne peut arriver que ce que tu permets que les autres me fassent. Et je te bénis d'avance, Seigneur Jésus, et je vois les anges qui rient, je vois les anges qui sourient, je vois qu'ils sont contents, qu'ils sont heureux de notre paix, de notre tranquillité et de notre foi active. Merci, Jésus. Veuille nous garder toujours, jusqu'à notre dernier souffle, dans cette paix et dans cette foi absolue que tu tiens toutes choses entre tes mains. Amen.
Amen.
Et amen.